Alors la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la dernière fois que nous avions eu l'occasion de partager quelque chose ensemble, c'était pour dire combien en ce début d'année, nous pouvons nous appuyer sur la grâce du Seigneur qui nous entoure de tous les côtés. Hein? Je ne sais pas pour ceux qui étaient là, vous souvenez, mais... bon, on est toujours au mois de janvier, dernier jour, donc il semble qu'on peut encore, dans la culture qui est la nôtre, on peut encore se souhaiter les meilleures choses pour l'année 2016. En tout cas, c'est sûr que Dieu puisse nous accorder à chacun dans notre marche pour cette année, à titre individuel, familial, etc., et en tant qu'Église, une année de grâce et de bienfaits. Mais si nous savons que Dieu veut nous entourer de tous les côtés de sa grâce, quelle pourrait être notre façon à nous de bien répondre à cet amour qu'il nous offre? Comment gérer et bien démarrer notre marche avec le Seigneur et en quelque sorte, en ce début d'année. Je me rappelle la dernière fois, on avait rapidement pris 7 passages des Écritures pour voir les différents côtés par lesquels nous pouvons voir que le Seigneur nous protège. Bien, je vais prendre aussi 7 points rapides aussi dans les lectures de la parole de Dieu pour dire comment nous devons démarrer notre marche notre vie avec le Seigneur en cette année 2016. Comment bien commencer, comment bien démarrer? Alors, ce sera 7 personnages dans la parole de Dieu. La première lecture, c'est la plus longue, mais on va la prendre. Puis après, ce sera que des petits versets. 2 Chroniques, chapitre 29. Verset 1er jusqu'au verset 11. Donc, c'est la plus longue lecture. C'est au sujet d'Ézéchias, qui est devenu roi. Comment a-t-il démarré cette saison de sa vie? Alors, 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père. La première année de son règne, démarrage, hein? La première année de son règne, au premier mois, janvier, on fait le rapprochement, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Et ils ont tourné le dos. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Le premier jour de son règne, le premier mois. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, c'est un roi formidable, hein? Il parle à des Lévites et à des sacrificateurs, c'est vraiment un cœur de berger. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. Alors, comment bien commencer pour Ézéchias? Je fais alliance. Je fais alliance avec le Seigneur. Voulons-nous une belle année? Eh bien, avec qui allons-nous nous associer? Ézéchias a été un roi parmi les plus excellents. Il a pris modèle sur un de ses ancêtres, David. Il a choisi de faire alliance avec le Seigneur. Alléluia. Donner la première place à Dieu. Les trois premiers mots de la Bible, c'est quoi? Au commencement. Et l'apôtre Jean dit la même chose dans le commencement de son évangile. Au commencement, il y avait le Seigneur. Amen. Donc ça va, c'est le premier point. On passe vite au deuxième point. Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On passe, on saute un peu au verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. L'Éternel lui a dit quelque chose. C'était à 75 ans, hein. C'est là où on a largement la retraite. Hein. Mais l'Éternel lui a donné une parole, une direction. Ce qui est remarquable dans le commencement de toute l'aventure qui va suivre, il a marqué par son obéissance. J'ai sauté du verset 1 au verset 4, quelques points de suspension. L'Éternel dit, parle à Abraham, lui donne quelques instructeurs, quelques directions, et Abraham partit. Il y aurait bien des raisons pour parlementer, discuter avec Dieu, trouver des excuses, mais ce qui a marqué la réussite de sa vie dès le démarrage, c'était un cœur obéissant à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Je veux faire alliance avec le Seigneur. Je veux avoir un cœur soumis, obéissant à mon Seigneur. Ce sont les secrets de deux réussites déjà de vie. On va dans Daniel. Voyez, faire alliance avec Dieu. Dieu, c'est mon Seigneur, c'est pas moi qui donne des ordres à Dieu, c'est lui. Maintenant, dans Daniel, chapitre 1, verset 8. Là aussi, c'est un commencement. Dans la vie de Daniel, jeune homme, déporté, esclave malgré tout, alors qu'il était bien en vue, mais esclave quand même. Le roi oblige de manger des viandes sacrifiées aux idoles par délégation d'ordre. Il avait donné cela aux responsables pour exiger ces choses à tout un groupe dont Daniel faisait partie. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Parce que c'était offert aux idoles, etc. Il y avait tout un sens qui n'était pas en bonne liaison avec sa foi et sa marche avec Dieu. Il résolut au risque de sa propre vie. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et vous connaissez la suite, comment Dieu a transformé cette détermination de marcher dans la pureté, dans une mise à part dans une sanctification pour Dieu. Vous connaissez la suite, comment ça a été avec ce bon commencement. La bénédiction pour cet homme et pour ceux qu'il faisait et les portes qui s'ouvraient, pour qu'il soit lui-même étant béni, source de bénédiction pour les autres. Alliance avec Dieu, seigneurie, obéissance à ce Dieu, sanctification, pureté pour le Seigneur. On va voir Josué. Retourne un petit peu encore avant. Josué chapitre 1, verset 8. Vous connaissez que ce passage où c'est le passage de relais entre Moïse et maintenant Josué. Moïse va mourir et Josué a cette responsabilité énorme de conduire le peuple dans la terre promise. Et donc au début, avant qu'il n'entre dans ce chemin, au commencement, Moïse lui dit, et c'est ce que Josué va faire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au commencement, la place, l'honneur est donné à la parole de Dieu dans notre vie. Je détermine qu'en 2016, il faut que sa parole soit pour moi le guide. Ça soit le Seigneur qui m'instruise et qui m'accompagne. C'est ce qui a fait la réussite pour Josué. Et ce sera aussi certainement la nôtre dans ce que Dieu appelle du succès. Dieu appelle le succès d'une vie, non pas obligatoirement par la grosseur de notre compte en banque, non, non, ou par même une bonne santé, ou quoi, des normes de ce monde. Mais il dit ici, une vie réussie, c'est une vie qui se nourrit de la parole de Dieu et qui met la parole de Dieu en pratique. Et ça a été le cas pour Josué. On va voir Néhémie. Comment a-t-il commencé une vie de réussite, une vie significative. Néhémie chapitre 1, versets 4 à 6. Néhémie était tranquille, les chansons du roi. Il avait une bonne place dans l'administration, hein? Fonctionnaire, formidable. Hein? Mais voilà que des nouvelles arrivent de Jérusalem et son cœur est bouleversé de sentir son pays, sa nation être dans la souffrance. Et lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Je lis là un petit passage, Après, vous lirez la suite, et pendant 4 mois, 4 mois, cet homme s'est approché de Dieu dans le secret de la prière, dans le jeûne, ni vu ni connu, mais vu et connu de Dieu. Et ça a été le commencement d'une vie extraordinaire, une aventure formidable, où cet homme a été le dirigeant de toute la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il y a eu plein d'attaques de l'ennemi. Vous savez, contre l'œuvre de Dieu, des fois, ce sont des attaques extérieures. Il y avait aussi des tensions intérieures, mais c'était quand même des attaques contre une destinée, une œuvre qui était sur le cœur de Néhémie donné par le Seigneur. Mais comment a-t-il pu traverser cette vie si mouvementée par les tempêtes causées par l'adversité? C'était un homme qui comprenait la place de la prière. Voilà un autre aspect qui pourra nous garder dans ce que Dieu aime et qu'il approuve, la prière. La prière, l'intimité, la dépendance, la foi quand nous ne pouvons plus rien faire. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Quand nous ne savons plus quoi faire, nous pourrions tourner le dos à Dieu et dans un élan de suicide moral et spirituel, de dire Dieu, faire un peu comme Asaph, ce matin il nous a été cité, Asaph qui regarde, alors qu'il était dans les épreuves, il regarde les païens et ils disent, mais eux ils réussissent. Moi, je crois en Dieu et j'ai ces épreuves. Mais jusqu'au moment où Asaph, jusqu'au moment où Néhémie a pu entrer dans le sanctuaire du lieu secret, dans l'intimité avec Dieu, pour se laisser consoler par le Seigneur, pour écouter sa voix, pour forger dans sa présence une nouvelle foi solide dans son cœur et ressorti. Les difficultés n'ont pas disparu pour autant, mais Dieu avait endurci son front, avait donné un cœur passionné et il a pu traverser les difficultés. Le succès pour notre année, pour ma vie et au-delà de cette année, pour ma vie et notre vie, c'est de savoir aussi dépendre de Dieu. Et cela, en nous confiant à lui dans la prière. Encore deux personnages. Hein? David, on retourne vers 1 Samuel chapitre 16. David, je crois il était 8e de la famille. Hein? Petit berger, négligé, le Benjamin, qu'on n'amène pas devant les autres parce que, bon, il n'est pas si, pas important. Mais Samuel, le prophète, est venu de la part du Seigneur, cherchant le roi choisi par Dieu. Samuel prit, 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. La place que nous donnons au Saint-Esprit sur notre vie. Se laisser oindre par l'Esprit de Dieu, qui nous transforme et qui donne une autre dimension à notre existence. Il y a un avant et un après, onction de l'Esprit de Dieu, donné par Dieu, voulu par Dieu sur la personne de David. Et de nos jours, nous, Église des Assemblées de Dieu, Église de Pentecôte, nous sommes entrés dans ce temps où la Pentecôte dépasse tout ce que l'Esprit de Dieu pouvait faire dans l'Ancien Testament. Après que Jésus ait accompli son œuvre, et son œuvre s'accomplit aussi en ce que c'est lui qui nous équipe et qui nous envoie le Saint-Esprit, à tous ceux qui sont ses fils et ses filles, ses serviteurs et ses servantes, pour que, loin de l'onction du Seigneur, nous puissions vivre une autre dimension d'une vie à fond pour lui. Ça, c'est bien. Que cette année, je ne sois pas un chrétien sec, sans flamme au-dedans de moi. Et que le feu de la Pentecôte, le feu de son esprit, me brûle et m'entraîne avec le peuple de Pentecôte des Actes des Apôtres. Et que là où le Seigneur nous place, ici, là où le Seigneur nous place dans notre famille, dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre église, eh bien, que nous puissions dire pour chacun d'entre nous, Seigneur, me voici, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Et que l'Esprit de Dieu m'utilise. Alléluia. Un bon commencement pour David. À partir de ce jour et dans la suite, c'est intéressant que cela soit pour nous aussi un défi. Que nous ne, et je le dis, je le parle, chaque fois quand on parle aussi en s'exhortant soi-même et en écoutant soi-même. Nous, chrétiens, quelquefois, nous avons expérimenté la vie de Pentecôte avec un souvenir bien particulier de tel moment où, du moment même où le Seigneur nous a baptisés dans le Saint-Esprit. Mais la suite alors, David n'a pas été saisi de l'Esprit de Dieu à ce moment-là, non, que ce moment-là, mais l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis et renouvelés du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour nous. Dernier personnage, et pas des moindres, notre Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 2. Enfant Jésus, né dans une famille bien modeste, il grandit, arrivé à l'âge de 12 ans, une petite fenêtre, nous sommes... La Bible est si discrète sur la vie de Jésus avant son ministère exprimé à partir de 30 ans. Et là, une petite fenêtre à l'âge de 12 ans où il se retrouve tout seul dans un voyage vers Jérusalem en caravane. Et puis les parents retournent pensant que leur fils est aussi dans la caravane. Avec le camping home là, en dernier queue ou en, je sais pas moi, de la troupe. Bon, ils sont pas faits d'inquiétude, mais au bout de quelques heures, quelques jours même, eh bien, il n'est pas là. Ils ont pas mis un avis de recherche, mais ils ont quand même cherché. Comme de bons parents, ils sont vite retournés en arrière. Et découvre où Jésus dans le temple, au milieu d'une belle étude biblique. Et il était là, au milieu des adultes, là. Et puis, fils Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et malgré tout, nous savons la suite, Jésus s'est levé et a suivi, a vécu cette vie familiale jusqu'à l'âge de 30 ans où après on le voit sur le devant de la scène. Mais c'est surtout ce terme. Ne savez-vous pas que dans ma vie, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je comprends que mon existence ici-bas doit être une existence qui soit utile, qui serve la cause de celui qui m'a donné la vie et qui m'est devenu mon Père. Il faut que je m'occupe. Il faut que je m'occupe. Il se le dit. Il se parle en quelque sorte. Bien sûr, il explique cela à ses parents terrestres, mais il se l'est dit à lui-même. Et quelque part, il est notre exemple. On doit se le dire, comme dans les psaumes où le psalmiste dit « Mon âme, ne t'abats pas !» Des fois, on a besoin de se parler à soi-même, de se secouer. Et je veux dire, avec vous, pour chacun d'entre nous et avec le Seigneur, mais que ma vie ait un sens. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je ne suis pas comme les gens du monde où je vis juste, je suis arrivé dans l'existence comme ça, mangeons et buvons, et puis laissons la vie nous porter. Non. Si je suis ici, si je comprends que ma vie vient de Dieu, il doit y avoir un sens. Il doit y avoir une destinée. Mais pas la mienne seulement, que je choisis moi, mais celui qui m'a donné la vie, qui m'a donné cela. Il doit avoir un objectif certainement, une intention quand il m'a donné le souffle de la vie. Alors nous l'avons lu ce matin, mes destinées sont dans ta main. Et Jésus dit, voilà, je veux commencer, même à l'âge de 12 ans, avec ce sens de dire, je veux servir mon Père. Je veux servir sa cause. Je veux servir sa cause. Alors voilà, là aussi il y a sept points. Hein. Bien commencer, nous avons dit, faire alliance avec Dieu, lui donner la première place. Nous avons dit, bien commencer, c'est avoir un esprit d'obéissance à notre Dieu, en saluant sa seigneurie. Et nous, à être dépendants de lui. Bien commencer, c'est se mettre à part et dire non, je me consacre à Dieu et je ne veux pas aller dans les souillures qui est celui que tout le monde veut prendre et pense que c'est normal. Bien commencer, c'est donner la place à la parole de Dieu comme guide, comme nourriture pour mon âme. Bien commencer, c'est cultiver toujours cette vie d'intimité, de prière, de dépendance. Bien commencer, c'est de dire, Saint-Esprit, je suis un vase, ton instrument, remplis-moi, remplis-moi. Bien commencer de dire, c'est de dire, me voici, Seigneur, ô Dieu, pour te servir, pour faire ta volonté. Et c'est comme cela que nous devons demeurer. Et en fait, demeurer dans toutes ces choses, c'est demeurer dans le Seigneur Jésus. Je donne deux versets encore pour terminer. Jean chapitre 15, verset 4. Jésus dit ceci, demeurez en moi. Restez dans toutes ces choses-là, d'une manière pratique, en demeurant en moi. En faisant ces choses-là, c'est dans ma personne, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sac, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sel, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que cette année nous permette à chacun de porter du fruit. Et si je ne demeure pas, si je ne veille pas sur toutes ces façons pratiques pour demeurer en Jésus, je ne pourrai pas porter du fruit. Je serai un arbre sec. Et un arbre sec, ben, voilà, Jésus a dit, ben, si c'est le vigneron, ben, il ne va pas s'encombrer. Et Dieu ne veut pas que nous restions secs, au contraire, il veut que sa sève coule en nous. Et dans ce même chapitre, au verset 26, il dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et dans ce verset, il y a le Père. Qui vient du Père, il y a l'Esprit de vérité. Il y a Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Parce que, c'est surtout ça, parce que vous êtes avec moi. Dès le commencement. Qu'à la fin de cette année 2016, le Seigneur puisse dire, eh bien, j'ai le témoignage. Une belle année pour telle personne. Vous avez rendu un bon témoignage. Parce que dès le commencement, vous avez déterminé dans votre cœur de demeurer avec moi. Vous êtes avec moi, hein, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, s'il y a au milieu de nous, supposons, quelqu'un qui hésite, commencer, eh bien qu'il le fasse, qu'il le fasse. Les bons démarrages, ça vaut le coup, hein. Des fois on rate toute une course, on manque la couronne, parce qu'il y a eu un mauvais démarrage. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça dans une course, hein. Mais, eh bien, puisqu'on est au début de la course, faisons quand même un bon démarrage. Et puis allons jusqu'au bout avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Couvrons nos cœurs un instant. Merci Seigneur pour ces quelques paroles qui viennent directement de ton saint livre. Il n'y a rien de plus sûr que de nous appuyer sur elles. Ce n'est pas par des discours philosophiques qui viennent de nos réflexions, mais ce sont les conseils, les secrets du succès que tu nous apportes. Aussi, Seigneur, moi-même, uni avec ses frères et ses sœurs, ensemble, nous te disons, aide-nous à bien marcher avec toi jusqu'au bout. Et si il te plaît de conserver toute la durée de cette année, que mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, et heure après heure, etc. Nous puissions être trouvés en accord, en harmonie, avec ce que tu as prévu de meilleur pour notre vie. Nos destinées sont dans ta main, et nous en sommes heureux. Nous ne voulons pas prendre une autre destinée que celle que tu as prévue pour nous. Merci Seigneur. Amen.